Pas les sécures, épisode spécial, je suis convaincu de Michael. Comment vas-tu?
Ça existe-tu, être un mort vivant?
Ben, ça existe quand on est à Vegas, puis qu'on a du jet lag, qu'on a des rencontres en fou, et qu'on doit essayer de vivre à travers ça.
Ça ressemble à ça, je te dirais. Le résultat des 2-3 derniers jours, passé à travers de Black Hat, petite journée de vacances ou de rattrapage de jet lag. Tout ça ensemble. On est même. DEFCON vient officiellement de commencer, puis je me sens. Je sais même pas où est-ce que je vais trouver le jus pour faire la suite.
Oh, il reste 3 jours de DEFCON dans ton cas. Puis d'à fond, on va en profiter, justement, aborder tout ton passage au Black Hat. Moi, je n'ai pas été au Black Hat. Ça fait très longtemps que j'y vais plus parce que je ne crois plus à la valeur que ça m'ajoute à ma vie dans mes choses. Il y a de la valeur quand même au Black Hat. Non absent tout ça, mais pour moi, ça n'en apporte plus. Toi, tu as passé les deux jours, mercredi, jeudi au complet, plus probablement le mardi soir avec des activités connexes aussi. C'est quoi ton appréciation générale de ce que c'est rendu le Black Hat maintenant?
Sérieusement, je vais faire une petite référence au Québec puis à la France. J'avais l'impression d'être au FIC. J'avais l'impression de voir plus des boots que quelque chose. Je voyais pas de valeur énorme. Je comprenais pas. Je suis rentré là, puis je suis comme... C'est plus grand que nature. C'est plus grand que n'importe quoi que j'ai jamais vu. C'est très impressionnant la première fois, mais tu sais, à part ça, ça apporte rien. Le trois quarts du monde que j'ai rencontré sur place, c'était soit du monde que je connaissais déjà, que j'allais rencontrer à DEFCON d'une manière ou d'une autre. Puis le reste du monde que j'ai rencontré que je connaissais pas, j'ai été incroyablement, déçu. J'ai resté déçu de comme la grandeur de l'événement, puis le prix que ça coûte d'être là, tu sais, les dépenses que ça en cours d'être à, on se le cachera pas, il y a pas d'option en bas de 1000$ pour être à Black Hat. Je vois pas un retour direct sur ça donne quoi d'être là, à moins que quelqu'un te sponsor pour y être. Il n'y a pas de... Je crois que même les vendors que j'ai rencontrés, tu sais, on s'entend les boots et tout ça, j'ai resté surpris de la qualité des boots pour la qualité des compagnies qu'il y a dedans. Tu sais, bien souvent, c'était plus flashy que ça apportait de la valeur. Tu sais, je rencontrais des compagnies, puis j'étais comme... C'est comme ça avait l'air d'être une multinationale, d'être énorme. Puis tu vois qu'ils ont brûlé de l'argent des VC pour comme se payer un boot hallucinant. Puis tu rentres dans le boot, puis comme même pas d'équipe de vente sur le plancher. Tu parles avec des développeurs, puis qui ont la misère un peu à saisir la business. Font de leur mieux, mais tu sais, puis qui viennent présenter des idées, puis des idées comme qui marchent pas toutes ou qui font pas toutes bien du sens. Puis ça, c'est un autre sujet que je vais aborder. C'est l'emphase cette année sur tout ce qui est AI. Puis on parle même pas d'AI, on parle juste de LLM, de Large Language Model. On s'entend des chatbots de sécurité. Je pense que j'ai vu toutes les flavors pas possibles, avec toutes les use cases pas possibles. Tu sais, sur peut-être 10 compagnies, il y avait peut-être une qui avait un use case intéressant de LLM. Fait que tu sais,
Mettons qu'avant de rentrer dans les LLM, parce que ça, c'est un sujet en soi.
Ouais, exact.
Juste pour le Black Hat, puis en même temps, ta référence, elle n'est pas fausse, parce que on en parle moins au Black Hat, mais on en parle plus au RSA. Dans le fond, c'est une compétition entre les VC qui a le plus gros kiosque. C'est même pas la start-up qui compte, parce que ça vient plus d'une compétition de VC qu'une compétition de start-up.
Exact.
C'est un peu triste parce que, dans le fond, on n'est pas là pour améliorer l'état de l'art. On est juste là pour montrer qu'on a plus d'argent que le voisin. Dans un contexte de start-up, puis toi, tu dois le vivre au quotidien.
C'est ça.
Les entrées d'argent sont importantes et de brûler de l'argent dans un kiosque. Comme c'est là, n'apporte pas de valeur en développant du produit. Puis ça doit créer une frustration quand même assez grande parce qu'on est quand même tu n'es pas dans le marché américain, fait que tu n'as pas cette folie-là.
Non.
Fait que tu dois. Tu as un plus grand besoin de rentabilité rapidement.
Exact.
Donc, de voir cet argent-là brûler comme on fout pour des choses qui ne valent rien, ça doit être assez choquant, là.
Effectivement. Puis, ce qui est encore plus choquant, c'est de voir des startups, même canadiennes, tu sais, qui ont probablement brûlé toutes leurs économies pour être là. Puis, je me demande, c'est quoi leur retour sur l'investissement? Parce que le monde que je voyais se promener, le monde qui se promenait, comme tu l'as dit, on dirait qu'il y a plus de vie, c'est plus une compétition de VC. Puis là, t'as des vrais startups qui arrivent là-dedans, puis tu sais, qui brûlent leur argent juste pour démontrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis comme, ils sont opposés à du monde qui ont 100 fois plus de budget dans un sens qui fait aucun sens. C'est un peu décadent de voir la chose aller. Pour vrai, c'est comme...
Ben, Vegas, c'est décadent en général. Effectivement. À bien des égards. Puis ça, ouais. Ça échappe pas le côté très décadent. Puis ça fait un peu écho à ce que je me plaignais l'année passée quand j'avais enregistré un podcast avec Vincent sur le fait que... Puis c'est une question d'âge. On en a reparlé un peu plus longuement là, en buvant de la bière tantôt. Mais ce qui fait que l'année passée, quand je suis venu au DEF CON, je me sentais moins dans la gang ou moins dans le coup. Puis en même temps, puis ce qu'on en a parlé, c'est pas autant que je connais pas les gens ou parce que avant, j'étais un peu plus dans les parties privées, comme tu mentionnais. Là, j'ai moins le goût. Le confinement, en fait, que j'ai perdu beaucoup de contacts aussi, tout ça réuni. Fait que l'année passée, je me suis retrouvé dans un contexte où tu vis l'événement pour ce qu'il est strictement et non pour tous les avantages. Et là, la valeur est beaucoup moins. Puis dans un contexte, puis là, si on fait un parallèle avec la start-up, ben l'absolu, c'est les contacts que tu vas tirer. Et les contacts que tu vas tirer, ça exige que tu prennes des soirées avec beaucoup d'alcool, que tu fasses des choses, puis moi, perso, j'ai plus l'énergie pour faire ce genre de choses-là. Il y a 10 ans, je le faisais, là, mais maintenant, je suis plus là. Fait que le prix que ça coûte à ma santé pour obtenir ça est assez énorme. Puis moi, j'ai pas le besoin. Toi, t'es plus dans un contexte de start-up, fait que le besoin est plus grand. Fait que je trouve ça encore plus absurde.
Ouais.
Ce genre de cette obligation-là de faire le party pour arriver à potentiellement des contacts avec potentiellement la capacité d'aller plus loin.
Effectivement, puis dans bien des cas, malheureusement, on s'en est parlé tantôt, mais c'est comme ça amène pas souvent plus loin. C'est plus souvent des ouvertures de portes, puis revenir au point de Black Hat, le gros avantage que je vois. C'est pas tant le floor, les briefings ou les trainings. C'est bien plus comme le côté un peu team building de comme tu rencontres du monde qui vont être juste à. Il y a du monde qui sont juste à Black Hat qui vont parler à DEF CON et vice versa. T'en as qui font les deux. Mais c'est tellement des clans séparés puis des opportunités séparées que dépendamment de pourquoi t'es sur place. Tu sais, dans mon cas, moi, j'ai trouvé ça écœurant parce que je peux pas dire que je vais voir un retour en signe de dollars sur l'événement, mais où est-ce que je vois le plus d'intérêt, c'est que j'ai pu rencontrer du monde que il partait aujourd'hui. Tu sais, la Black Hat est fini, Chow Bai, c'est fini. Puis c'est des opportunités, des canaux de vente, des VC ou du monde qui vont juste jamais aller à DEF CON. Fait que côté startup, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on est du côté affaires, ça vaut beaucoup plus la peine de mettre les pieds à Black Hat. Peut-être pas pour l'événement, mais plus pour ce qui va se passer autour, des introductions ou le monde qu'on rencontre. C'est un autre sphère, c'est un autre versus si tu arrives à DEF CON, ben là, t'as un peu de tout.
Ce regard-là est intéressant. Puis ça, je me fie vraiment sur toi parce que moi, je suis zéro startup. Moi, c'est vraiment comme freelance, mon calcul est très différent. Je viens au DEF CON Black Hat depuis 2007. Depuis DEF CON 14 que je traîne dans cet environnement-là. Et Defcon 14, c'est à l'époque, j'allais encore au Black Hat. Ce que je ne fais plus maintenant, fait que, de ton expérience, je peux rien relater parce que je n'y vais plus. Parce que j'ai perdu l'intérêt d'aller là il y a longtemps. Parce que le retour, c'est investissement parce que c'est cher. Je pense que comme participant, ça me coûtait 2000 à 3000 $ juste pour l'événement. Et c'est deux jours, puis bon, les qualités des conférences ne justifiaient pas nécessairement la mise de cet argent-là. Fait que j'ai arrêté à un moment donné, puis j'avais pas de retour. Mais en même temps, puis à ces époques-là, puis ça m'avait fasciné parce que tu vois les personnes qui animent les kiosques des vendors, de grandes compagnies reconnues américaines, notamment. Ouais. Et t'arrives au DEFCON, t'as les mêmes personnes habillées moins stiff, plus adaptées au DEFCON notamment. Puis là, tu fais comme, OK, ouais, il y a une suite. Les gens font plus que ça. Et ça devient intéressant de voir cette dualité-là, comme tu mentionnais, de ce double univers-là. Et pour les compagnies qui font l'effort de faire le double, parce qu'il y a des gens qui vont aller, comme tu disais, co-Black Hat, il y a des gens qui vont aller co-DEFCON, et il n'y a pas tant de gens que ça qui font les deux. Il y en a parce que quand tu achètes un billet au Black Hat, ton accès au DEFCON est fourni. Fait que c'est un incitatif. Mais il n'y a pas tant de ma connaissance de gens qui vont faire ça, qui vont juste retourner à la maison parce qu'on a hâte de retourner à la maison. Là.
Je les comprends totalement. Je suis un peu dans le même état après deux jours de vacances, honnêtement. Là. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'effectivement, il y a pas, t'sais, y a une très grande écart entre le monde qui font un ou l'autre et non les deux. Mais c'est drôle parce que en fait, les deux conférences donnent le même but pour deux groupes différents. Puis bien souvent, ben, ceux qui vont faire les deux, ben, c'est qu'ils ont un pied du côté professionnel et peut-être un peu du côté business, mais comme en réalité, tout se passe à DEFCON. Tu sais, la communauté, j'ai hâte de voir parce que avec la discussion qu'on a eue tantôt sur DEFCON au Convention Center, j'ai hâte de voir le nombre de personnes sur place. Les dernières années, on s'entend, ça fait peut-être 6 ans à peu près que j'ai pas mis les pieds à DEFCON à cause de la COVID et tout ça. Je suis vraiment curieux de voir comment que ça l'a grossi, si on peut dire, entre parenthèses, de la popularité de l'événement et tout, parce que comme c'était vraiment le centre de l'univers il y a quelques années. T'arrivais là, en sécurité, c'est là que tu rencontrais tout le monde. Les plus grosses opportunités, autant de trouver des contacts dans tous les domaines ou de peu importe la raison de pourquoi on est à DEFCON, c'est juste comme c'est là qu'on dirait que c'est comme le centre de l'univers pour la cybersécurité. Puis les opportunités que j'ai eues et les rencontres autour de DEFCON, que selon moi sont pas mal plus importantes, puis c'est la même chose avec Black Hat, on se le cachera pas. C'est tout le temps un peu ce qu'on disait tantôt, c'est les parties autour qui font l'événement. Puis d'aller à ces parties-là, ben. C'est très épuisant, on ne se le cachera pas. Mais c'est un petit peu... C'est drôle parce que c'est les deux, c'est un petit peu dans le même but. T'sais, c'est là qu'on découvre des choses ou qu'on rencontre du monde qui a... Ah! T'sais, être juste sur le plancher, c'est comme... Ça vient très vite monotone. Autant à Black Hat que si tu n'as pas la bonne raison d'être là, je connais du monde qui vont y aller la première journée puis... C'est mort après, là.
Entièrement raison. Ben, le Black Hat encore plus. Parce que ça, le Black Hat au prix que ça coûte. Je me forçais pour aller à des conférences, mais dans l'absolu, c'était comme contraint c'était comme une contrainte. Puis ensuite, ce clivage-là qui est historique parce que au DEFCON, c'est plus les gens les machins hackers. Puis au Black Hat. Étonnamment, parce que malgré le nom de Black Hat, c'est les gentils ciseaux qui sont là. Fait qu'il y a comme une opposition étrange qui ne devrait plus avoir lieu maintenant, d'ailleurs.
Non, exact.
Qui n'a aucune raison d'exister comme ça existe. Puis d'ailleurs, à certains égards, tu sais, tu vas avoir des conférenciers qui ont présenté aux deux. Fait qu'il n'y a pas d'avantage. En tout cas, bref, tout ça est globalement bizarre. Puis si on n'a pas accès à l'information utile, puis au Black Hat, c'est d'autant plus emmerdant. Si tu n'as pas l'information utile, qui est hors conférence, ben c'est d'autant plus pénalisant. Au DEF CON, tu peux le vivre parce que le prix est beaucoup plus abordable. Puis de ne pas vivre toutes les parties. Mais je l'ai fait là, il y a des années, j'en ai participé à des parties privées. Mais j'ai plus l'énergie de faire ça. Je trouve que pour moi, personnellement, la barrière à l'entrée est tellement grande que ça me tente plus de faire ça. Puis de l'autre, puis on en avait parlé un peu quand on était en train de discuter dans le pré-show. Le confinement nous a fait perdre ces relations-là à certains égards. La vie étant ce qu'elle est, les gens qui ont étudié ensemble, qui ont travaillé ensemble ou qui ont pris des brosses ensemble et qui ont établi des liens forts entre eux autres dans ces moments-là, ben, on a été capable de résister au confinement et de se retrouver après. Comme j'ai pas vraiment pris de brosse ou étudier ou travailler.
Je t'imagine pas trop faire ça en ce moment.
J'en ai fait. Mais bref. Puis les gens vont sûrement rire parce qu'il y en a une couple qui le savent. Mais tous ces événements-là, mais c'est pas au sens où. Quand tu prends une brosse au DEF CON, c'est une chose. C'est comme un one-shot. Prendre une brosse à toutes les semaines avec tes chums, ça en a un autre. Ça devient tes chums de brosse. Et tes chums de brosse, ben, il y a comme une affiliation qui va avec eux autres. Et au DEF CON, tu as beaucoup de chums de brosse qui sont là. Comme beaucoup, ben, c'est ça revient à ça. Des chums de brosse, des chums de travail, des chums d'études. Puis tous ces gens-là ont cet avantage-là, ce que tu as exprimé, puis ce que j'ai aussi, j'ai pas ça. J'ai pas de chum de brosse au DEF CON, j'ai pas de chum de travail, j'ai pas de chum d'études. J'ai rien finalement avec personne. Ça, contrairement notamment au Québec, j'ai des chums de brosse. J'en prends plus tellement maintenant, là, j'ai l'âge que j'ai, là. C'est une autre époque de ma vie. J'ai des chums d'études, puis j'ai des chums de travail que j'ai encore maintenant, fait que tu es capable de faire ça, mais DEF CON, Black Hat, j'ai pas ce niveau de relation-là. Ça va être des brosses superficielles, si tu veux prendre cet exemple-là, ou c'est des relations qui sont plus superficielles, qui pour moi, personnellement, n'ont pas résisté au confinement. Ils ont tous disparu, soit ces personnes-là ne viennent même plus aux événements, ou soit ils ne répondent plus. Ils me ghostent, fait que je suis passé à un état, je suis comme un état secondaire, fait que j'existe plus.
J'ai sérieusement la même. J'ai senti la même chose passer, je t'avouerais, c'est après 6 ans. 6 ans d'absence, c'est un peu la même chose. Tu sais, tu connais plein de monde, puis c'est comme. Soit ils viennent plus, ou soit ils te ghostent, ou soit. C'est exactement ce que tu exprimes, c'est la réalité de tout ce qui s'est passé depuis. Mais. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est que malgré tout ça, on finit tout le temps par rencontrer du nouveau monde. Partez ou pas partez, ou peu importe ce qu'on décide de faire, parce qu'il y a plusieurs. Tu sais, on se le cachera pas, il y a plusieurs façons de vivre DEF CON. T'as la façon heads-on, je m'en vais voir les conférences, je m'en vais voir les villages, puis. Oui, il y a du contenu pour plusieurs jours, puis tu peux passer ta journée à tourner en rond, mais quand tu commences à vraiment. Choisir ce que tu veux faire puis vraiment focaliser l'énergie, c'est là que tu rencontres le monde le plus intéressant. Puis encore une fois, je le ramène un petit peu à mon concept que j'avais pour Black Hat. Je vois ça encore comme un team building. Si tu t'intéresses à quelque chose, ben il va y avoir probablement un village ou un talk qui va parler de ça, que tu vas rencontrer du monde que justement, c'est des maniaques de ça. Puis c'est comme inimaginable des fois les sujets qu'il peut avoir sur la place. Puis ou des villages, des trucs que t'es comme, mais quand est-ce que ça a viré mainstream, là, tu sais?
Oui, puis ça fait écho à ce que j'avais mentionné l'année passée où j'étais un peu frustré du fait que, j'étais plus dans la gang parce que justement, puis un peu, l'année passée, j'avais pas cette profondeur-là de compréhension pourquoi j'étais plus dedans, là, mettant le recul que j'ai, je comprends maintenant pourquoi. Les choses sont passées comme ça, puis somme toute, moins frustré. Mais en même temps, c'est de comment reconstruire. Puis c'est un peu ça l'objectif. Puis c'est un peu ça que vous avez fait aussi au Black Hat. L'objectif, vous étiez là, c'est de construire des choses comme ça qui étaient inexistantes. Fait que c'est quand même un effort assez grand et assez important. Puis ça, je vous lève mon chapeau parce que je ne suis plus un espace dans ma vie où ce genre de choses-là m'interpelle. Mais de ce genre de choses-là et de reconstruire. Puis c'est de cette année, puis justement, faire écho, puis me répéter. Cette année, j'ai l'intention d'aller dans les villages au lieu d'être juste dans les conférences parce que je suis probablement rendu au stade, puis j'ai pas voulu me l'avouer l'année passée, mais je suis à un stade où ce qui est présenté en conférence n'est plus tant pertinent pour moi. Et la pertinence, c'est d'aller dans les villages, qui est une façon de reconstruire les relations.
Ouais.
D'intervenir avec des gens, de discuter, de rétablir de nouveaux contacts et de reconstruire ce qui a été perdu dans le confinement. Fait que les villages, en l'occurrence, vont être un tremplin qui est moins exigeant que d'aller dans les parties, là, cela étant dit. Fait que je peux juste genre faire du 9 à 5 puis être correct de faire mon réseautage au lieu de genre genre 9 à minuit, là, qui est un peu. Ou du 9 à 5 mais de 9h le soir à 5h le matin. Là. Qui est un peu plus tough à faire, rendu, en tout cas, du moins rendu à mon âge. Là, fait que ouais. Je dispose plus de cette énergie-là. Mais de pouvoir recommencer à construire un certain nombre de relations de cette façon-là. Fait que je vais essayer. Là, je sais pas, là, on enregistre la veille du début officiel du DEFCON. Fait qu'on va voir, je vais pouvoir en parler plus à la fin. Puis ça, j'ai des choses comme ça. L'autre point que tu as abordé aussi sur la quantité de monde puis toutes ces affaires-là, parce que tu as quand même abordé beaucoup de choses, parce que moi, j'ai acheté mon badge aujourd'hui. Et au Convention Center, bon, je trouve l'endroit moins intéressant que le forum qu'on avait l'année passée, parce qu'on est dans un endroit beaucoup plus isolé. Et au point plus isolé, moi, je vais là en monorail, et du gate du monorail à là, le West Hall. C'est 10 minutes de marche à une vitesse qui est quand même assez rapide. Fait que c'est loin, c'est fucking loin. Déjà partant, et quand je cherchais mon badge le jeudi, c'est depuis beaucoup d'années, c'est l'année des débutants, des gens qui veulent commencer. Fait que c'est toutes des conférences qui sont adaptées pour les gens qui veulent commencer dans le milieu. Correct, j'adore, il faut. Puis je trouve ça bien que le DEFCON consacre une journée expressément à ça. La chose que j'ai constatée, puis j'ai cherché ma badge, ça a été super rapide, mais le Convention Center était plein. Mais plein.
Ça, juste ça me jeudi. Fait peur, honnêtement, parce qu'il est énorme, me semble, le
Convention Center. Il est énorme et c'était plein. Il y avait du monde partout. Fait que moi aussi, je suis un peu préoccupé demain de la capacité d'aller dans les salles de conférence. Parce que l'an dernier, malgré que c'était relativement plein, l'accès aux salles de conférence était super rapide. L'accès au village était moins fluide, mais au moins aux salles de conférence, c'était fluide. Cette année-là, je me sens retourné à l'époque où c'était au Caesars et tu ratais essentiellement une conférence parce que tu te mettais en file. Puis le genre, il rentrait le monde, il y avait une conférence et tu rentrais après. Fait qu'essentiellement, tu voyais une conférence sur deux parce que le débit ne permettait pas ça. Ça me préoccupe de voir ça cette année. Puis ça va vraiment un turn-off majeur parce que, tu sais, là, si je suis pas capable d'accéder aux conférences, puis les villages sont overload, là, il y a la plus-value pour moi du DEFCON vient de réduire parce que je ne peux pas parler à des gens, je ne peux pas établir des contacts, je ne peux pas aller dans un village ou je ne peux pas aller voir du contenu dans les conférences. Là, je dis là, maintenant, ça, mais là, on parle avant, là, ça me préoccupe. On en parlera après, mais ça me rappelle un peu le Caesars.
J'ai l'impression qu'on s'en va vers là, effectivement. Parce que le Caesars, c'était un gros bottleneck incroyable. Mais moi, ce que je trouve le plus ironique, c'est que si tout ça arrive pour vrai, qu'il y a autant de bottlenecks où c'est impossible de voir les conférences, c'est dur d'accéder au village. Ça va juste repousser encore plus de monde à aller au party. Parce que c'est ce qui va rester, tu sais. Fait que c'est là que ça va être un peu un, comme on dit, un deciding factor de dire est-ce que j'ai le goût d'être là ou j'ai pas le goût d'être là? Parce que comme je me rappelle de tellement d'années que je suis allé à DEFCON. Puis finalement, je pétais les pieds là une fois pour voir peut-être une conférence, puis peut-être faire un tour des villages, puis c'était tout. Parce que c'est tellement d'énergie juste, comme tu le disais, d'essayer d'accéder à la conférence. Les bouchons de humains, tu sais, quand on parle de bouchons dans le trafic à Montréal, mais là, c'est des bouchons humains avec des milliers de personnes qui sont comme même pas capables de sortir d'une pièce parce qu'il y en a juste trop. Tu sais, comme tu disais, le débit et tout ça. Il y a quasiment une garantie que ça va nous... ça va avoir un effet néfaste parce qu'on va être comme quasiment porté à vouloir être en dehors. Puis après ça, ça revient au point de ce que tu disais tantôt sur le Black Hat. Tu sais, où la valeur d'aller à l'événement? Tu sais, quand tu payes pour, mais tu peux rien faire.
Ben, c'est ça. Puis pour moi, dans l'absolu, le DEFCON est quand même un événement de contenu plus que de contact, même s'il y en a quand même, puis c'est intéressant et pertinent. Puis j'en ai, tu sais, même à ce stade-ci, avant même que la conférence commence, j'en ai fait des contacts. Donc, il y a quand même des avantages très intéressants associés à ça. Mais est-ce que ça vaut le... On parlait de voyage avion tantôt. Est-ce que ça vaut le 5 heures d'avion dans une boîte de conserve qui vole à 1000 pieds dans les airs, dans laquelle elle n'est pas confortable, avec du monde qui ne savent clairement plus vivre non plus, parce qu'en avion, les gens ont perdu le savoir-être en avion et n'est plus ce que c'était. Là.
Fait que que ça vaut un podcast, ça, tout seul.
Ah, probablement, là, parce que.
Des histoires d'horreur dans l'avion en route pour DEFCON ou en revenant.
Ah, non, c'est juste terrible. C'est. Tant qu'à ça, si t'es start, t'sais, de l'enfer, c'est les autres. Dans une boîte de conserve qui vole à 1000 pieds, oui, l'enfer, c'est les autres. On a perdu le civisme qu'on avait avant, il est vraiment plus là. Il n'y en avait pas beaucoup avant, mais quand même, il y en avait un peu, mais là, genre, il n'y en a plus du tout. Là. Fait que ça devient un peu désagréable. C'est genre souffrir en avion, pas coucher à la maison, décalage horaire, puis c'est un événement avec du contenu et la capacité de faire des contacts qui n'est pas à la hauteur. Ben, c'est à se poser de sérieuses questions sur ce qu'est-ce qu'on fait avec ça dans l'absolu. Puis je suis quasiment à une année où ça passe ou ça casse parce que je suis plus sûr que ça me tente de tout faire ça juste pour ça.
Effectivement, c'est une drôle question qui va rester peut-être un petit peu trop philosophique pour asseoir. Mais en réalité, je pense aussi que c'est personnel parce que comme on en parlait avant d'enregistrer, c'est en bout de piste, ça dépend des raisons pourquoi qu'on va là. Tu sais, pourquoi qu'on va à Black Hat, pourquoi on va à DEFCON, je pense que c'est tout personnel. C'est différent pour chacun, puis c'est un peu ça qui fait la démographie entre les deux qui est totalement différente. Là, c'est pas pantoute la même gang, c'est pas pantoute la même idéologie. Puis comme, ça va peut-être, tant mieux, ça m'a amené, ça a un effet néfaste de réduire, parce que c'était quand c'était vraiment tout petit qui faisait que c'était intéressant. Là, c'est rendu tellement gros que j'ai bien hâte de voir à partir de demain là, pour DEFCON. Après 5-6 ans, ça a évolué, ça a grossi puis tout ça. J'ai hâte de voir c'est quoi vraiment le big picture de qu'est-ce que ça apporte d'avoir encore plus de monde. Parce que je me rappelle déjà, il y a peut-être, je crois, 6 ou 7 ans, une des dernières années que je suis allé, je trouvais déjà que c'était... quasiment une intoxication. C'était tellement toxique d'aller à DEFCON parce que il y avait trop de monde qui n'avait pas rapport là. C'était rendu trop un événement public. Tu sais, ça a toujours été un événement pour la communauté de sécurité. Ça a toujours été un événement, tu sais, underground. Mais là, on dirait que c'est rendu l'événement, tu sais, que genre tout le monde veut se pointer. Aussitôt que tu es en IT, C'est genre, c'est, on dirait que ça devient un must. Puis que là, ben là, tout le monde va emmener leur famille là, va emmener. C'est là que ça devient un petit peu n'importe quoi, que comme. C'est un événement professionnel pour ben du monde qui est très important. Mais là, quand tu te ramasses que finalement tu t'enferges en plein de monde, que tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'ils font là. C'est là que ça devient toxique, là, tu sais.
Ouais, je comprends ton. Oui. Oui, ben ça l'a beaucoup changé. Puis en même temps, c'est bien parce que c'est très inclusif, le DEF CON. Mais la question de mon point de vue, est-ce que la croissance infinie est une bonne chose dans le contexte où on devrait peut-être contraindre l'événement à un nombre limité? Est-ce qu'on devrait... Je sais pas, parce que c'est trop... Fait que je pense que tout le monde perd au change dans le contexte. C'est autant ceux qui veulent débuter qui aimeraient apprendre, autant les gens qui veulent juste parfaire leur connaissance ou aller dans des zones qu'ils connaissent moins. Tout le monde est perdant dans ces décisions-là.
Effectivement. J'amènerais peut-être un point, peut-être par rapport, mais je vais prendre un petit peu comme le Recall à Montréal, tu sais, qui est super spécialisé dans une track, reverse engineering, quasiment only. Ben, je me dis, comment tu fais pour segmenter ça? Comment tu fais pour segmenter de quoi qui est rendu trop gros, trop de monde? Puis effectivement, je pense pas qu'il y ait une méthode magique pour régler le problème, mais...
Ben, le cas de Recon, à mes yeux, est un peu plus facile parce que c'est un événement spécialisé. C'est qu'on le veuille ou on le veuille pas, le Recon, c'est du reverse engineering, ce n'est que ça. T'as pas de talk en dehors de ça. Et si tu essaies de si t'as pas de compréhension au moment de ça, t'es juste perdu. Fait qu'au minimum, ils ont une mission claire, avec une portée claire, et ils divergent pas de la portée. Fait qu'on est très dans ça. Moi, c'est plus les événements, les all you can eat. C'est-à-dire, le DEF CON est un bel exemple, mais on en a d'autres, notamment au Québec également, qui sont dans un modèle de croissance infinie. Au lieu de dire, que j'ai atteint le plateau de la clientèle que je veux desservir, puis j'arrête là. Mais j'assère bien, je mets beaucoup d'énergie là-dessus parce que après ça, puis parce qu'on organise des événements, quand tu prends ton énergie qui sert bien ta clientèle principale, là, tu élargis ton offre et tu n'as rien pour tolérer, pour être capable de prendre la charge. Tu vas pénaliser ta clientèle ou ton public de base ou primordial parce que tu ne seras plus capable de cajoler, tu ne seras plus capable de leur donner du contenu pertinent, des choses comme ça. Fait que, je trouve qu'on se perd, on perd sur la qualité en voulant aller partout. Là.
Effectivement, ben, c'est un peu là que je veux en venir avec la recette d'avoir trop de monde, trop de trucs disparate justement, qui fait que ça a un peu un effet amplificateur, tu sais, d'amener plus de monde à s'intéresser. Fait que finalement, c'est comme une roue sans fin de trucs qui fait que c'est de plus en plus dur, tu sais, d'accéder au talk, de plus en plus dur d'accéder au village. Parce qu'aussitôt que tu trouves d'intéressant, ben, à place de rentrer dans une salle que tu as juste les purs, si on peut dire un expression québécois, les purs cracks de ce sujet-là. Non, tu t'enferges dans tout plein de monde qui n'ont pas rapport, puis tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font là, puis ils vont rien t'apprendre, ou ils sont aussi confus de toi de qu'est-ce qui se passe dans le village. Tu sais, puis c'est ça que je trouve qui perd beaucoup de son charme, parce que c'est comme tu voudrais pouvoir t'asseoir avec quelqu'un, puis genre avoir une discussion pour apprendre quelque chose, ou tu voudrais rencontrer du monde, tu sais, spécialisé là-dedans. Mais à la place, tu rencontres plein de monde qui sont autant intéressés que toi dans un sens, mais qui n'ont aucune idée. Fait que tu sais, c'est ça qui crée que ça rend ça vague puis un petit peu dommage, tu sais.
Ouais, puis c'est intéressant, puis c'est un excellent segue vers le deuxième sujet sur l'intelligence artificielle, parce que justement, on amène dans un contexte où on fait face à des gens qui ne connaissent pas, qui disent n'importe quoi, qui nuisent. Puis là, on bascule sur l'AI parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est très relatif à, ou très connexe à la cybersécurité parce que il y a une panoplie de mesures qui sont similaires à la cyber qu'on doit ajouter ou moduler par rapport au AI, ce qu'on ne fait pas vraiment tant que ça maintenant. Et ça, c'est une chose. Et là, on parle du AI. Quand je fais ça, on parle du LLM, qui est un micro sous-ensemble de plein d'autres affaires en AI. Parce que du vrai AI, c'est pas être capable de dialoguer avec un ordinateur. Du vrai AI, c'est d'être capable de faire une fonction définie avec un rendement défini. L'exemple que j'ai, c'est chez un client, il y a un système qui a brisé, il y a du AI qui a été mis en place, et en moins de temps que les analystes ont pu le faire, on a eu un rapport d'incident de cet AI-là et qui a permis de prendre des décisions éclairées. Quand l'équipe d'analystes, elle, était rendue même pas la moitié du travail quand le AI a pondu son document. Donc, oui, il y a un avantage. Oui, il faut le voir comment. Mais c'est un peu... Ça demeure plus compliqué que ça aussi, là.
Effectivement. Puis c'est aussi un gros... Je te dirais que c'est un des gros trucs que j'ai trouvé désagréable cette année par rapport au Black Hat. C'est que, tu sais, autant que c'est l'année de pour les cellulaires de comme... Ils appellent ça le era de l'intelligence. Que c'est comme on se soucie plus de comme qu'est-ce que l'AI peut faire que la performance d'un hardware pour faire exécuter une tâche, on peut
ou
dire.
Ou l'utilité réelle d'utiliser l'AI. Ça, on en parlait parce que ouais. Dans mon entourage, j'ai une personne qui a une compagnie qui est spécialisée là-dedans, et dans l'ensemble de ce qu'elle elle fait comme offre de service, le AI en fait partie parce que c'est le cœur même de la business qu'il a. Mais cependant, il utilise des modèles mathématiques qui sont plus performants que du AI pour arriver à la meilleure réponse. En plus performant en termes, il prend moins de temps pour arriver à la réponse. Et la réponse est généralement de meilleure qualité que du AI. Donc, on est dans un contexte où on essaie de faire fitter un carré dans un rond tout le temps avec du AI en pensant que l'AI va répondre à tout quand dans les faits, ce n'est qu'un fragment de l'histoire. On n'est pas capable de faire ça. Puis tu me disais, c'est juste du LLM. C'est pas du vrai AI au sens plus large que ça, là.
Non, exact. Puis ça a donné place à des affaires assez cocasses. Le nombre de compagnies que j'ai rencontrées au Black Hat qui étaient là juste pour démontrer leur capacité AI. Puis là, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font avec du AI. Ils trouvent un chatbot pour faire des tâches que c'est comme, bon, ben je vais écrire en texte qu'est-ce que je veux faire. Que dans bien des cas, si tu connais un minimum ce que tu veux faire, c'est pas plus long d'aller cliquer puis d'aller le mettre, d'aller dans un menu, rajouter exemple une règle puis d'ajuster qu'est-ce qu'on veut faire. C'est autant rapide que de l'écrire dans un texte. Là. Fait que c'est quoi? Tu sais, puis je généralise beaucoup par rapport à ça. C'est le trois quarts des solutions que j'ai vues, peut-être une sur dix, étaient pertinentes, avaient une twist intéressante sur quelque chose que c'est comme, ah bon, vous avez pensé à ça. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, ça automatise quoi? Ça rend quoi de mieux? C'est quoi l'ajout que ça fait à part pas grand-chose? C'est ça le vrai sujet, tu sais.
Puis en ça, je te rejoins, parce que je sais pas, j'ai pas vu ce qui s'est passé au Black Hat, là. Puis je sais, dans le fond, je connais pas où sont rendus les avancées, mais les dernières choses que j'ai vues, et de grandes compagnies d'ailleurs, le AI, somme toute, ne faisait que résumer la documentation. Fait que si t'étais regardé la documentation, t'avais pas d'avantage réel au AI en question. Si tu faisais juste poser une question au AI, il te répondait sur la base de la documentation relative au produit en question. Fait que dès lors, il n'y a pas un avantage significatif au-delà du fait que si tu n'as pas lu le manuel, ben là, tu poses la question au AI qui va te répondre. Fait que c'est un peu mauvais. Puis même à certains égards, puis là, je vais mettre quand même une opinion un peu plus éditoriale. Si tu n'es pas capable de lire la documentation, t'es pas allé chercher dans la documentation, puis t'as besoin du LLM pour être, de faire la requête dessus, de savoir comment fonctionne ton produit. On a des problèmes très importants dans l'opération de nos centres de sécurité, que ce soit un SOC ou peu importe qu'on veut le nommer. Parce que si tes opérateurs ne connaissent pas et n'ont pas le réflexe, on est vraiment au niveau réflexe, ils sont pas capables d'avoir l'intuition d'arriver à quelque chose, puis ils doivent absolument noter, demander au LLM. On rajoute une latence de plusieurs minutes à l'intervention. Donc, on a un incident, ça peut avoir un impact très important de ce délai-là supplémentaire parce qu'on n'est pas capable. Mais on fait juste remplacer la lecture à l'heure actuelle, on fait juste remplacer la lecture du manuel par du LLM. Puis même en plus pire que ça, c'est du RAG. Fait que c'est un sous-ensemble encore plus petit du LLM qui est utilisé que sur des bases de données de la documentation des produits. C'est n'importe quoi à mes yeux, là.
Je vais aller plus loin que n'importe quoi. Mon point, c'est que avant même, on va dire, l'invention du LLM ou la mise en marché, si on peut dire, merci à ChatGPT, la réalité, c'est que ça existait déjà. Tu sais, il y a du monde qui a réussi à le faire en programmation sans à se rendre à un niveau de complexité, tu sais, qu'on peut dire qu'on a besoin de parler d'un LLM, là. Tu sais, ça existe depuis longtemps, des chatbots que tu peux leur parler avec soit des choix de réponse ou des choix, tu sais, préqualifiés ou qui ont un minimum de compréhension de ce qu'on veut chercher. Dans tous les cas, tu sais, ça revient du search engine, comme on pourrait dire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin... Tu sais, encore une fois, ça revient à mon point de tantôt. Tu sais, c'est beau de parler de LLM ou d'implémentation de chat. Mais comme il y a beaucoup d'implémentations dans bien des cas que je me demande tout le temps, mais pourquoi? C'est pourquoi on fait ça, puis pourquoi il y a autant d'argent qui est mis là-dedans, parce que ça fait rien de plus, ça.
Ouais, c'est un peu comme le rêve qu'on a d'avoir une machine à laquelle on est capable de dialoguer avec, là. Ce qui est un peu fou, parce que c'est ultra non performant, ce genre de méthode-là, parce que moindrement quand tu as appris à programmer, tu constates que le délai de discussion avec le AI, qu'on le fasse par écrit ou verbal, est énorme par rapport à genre prendre le clavier puis écrire ta ligne de commande, puis tu vois, ça allait beaucoup plus vite.
Ben, c'est drôle, tu me fais rappeler quelque chose. Ça fait longtemps parce que ça remonte à mes années de cégep. J'avais eu une discussion avec un prof qui était comme, je vous mets tout au défi, j'utilise mon command line, prenez votre desktop Windows, on va faire les mêmes choses. On va voir qui gagne. Mais ça ne paraît pas, mais cliquer, attendre que ça rouvre, faire des transitions, peu importe ce qu'on fait sur notre desktop. C'est foutrement long versus une ligne de commande ou une ligne de code qui le fait pratiquement instantanément dans un sens.
Ah, c'est fou ça, puis quand tu le regardes comme ça, puis je dévie un peu... Je connais beaucoup de places qui, en info numérique, font pas du DevOps, font du ClickOps. Fait que, mon intervention, ma remarque a eu son effet parce que c'est parti à rire. Mais ça demeure ça. Puis, on est dans une absence de maturité. Puis, on revient toujours. Les gens comprennent pas ce qu'ils font. Donc, incidemment, ils vont préférer cliquer sur des choses que de rentrer des lignes de code parce qu'ils maîtrisent pas. Et on ne les met pas dans une position de maîtriser. Il y a des organisateurs qui ne forment pas leurs employés, ce qui est malheureux. Mais à certains égards, ces employés ne veulent pas non plus se former. Donc, ils restent dans un état qui attendent puis qui se passe. Fait que tout le monde est perdant parce que... désolé, mais le click-up, on est vraiment sur la fin. Là. Ce que Windows NT4 nous a permis il y a quand même 20 ans, n'existe plus là, de pouvoir réussir à mettre dans les mains des personnes qui ont une connaissance modérée à faible du fonctionnement de serveur, du fonctionnement de réseau, du fonctionnement de sécurité, d'être capable de monter des parcs complets. Ben, on est rendu à la fin que là, on est rendu au stade où on va basculer, les interfaces vont disparaître. Windows devrait faire disparaître tranquillement ses interfaces. Favorise énormément plus, dans leur cas, c'est le PowerShell et le Graph API, ce qui est normal. Mais et d'aller vers ça. Puis que les autres aussi font de plus en plus vers cette notion-là de mécanique. Mais on revient, si on revient au AI, c'est un outil qui est très lourd, pas un résultat très faible. Et à l'heure actuelle, on ne paye pas le vrai prix. Fait que c'est qu'on l'utilise de façon trop par rapport au coût réel qui est caché en arrière. Fait que quand on va payer le vrai coût, on n'utiliserait plus tant que ça le AI comme on le fait actuellement. Là.
Effectivement. Puis c'est un petit peu pourquoi que je disais que c'est comme. C'est que ça me levait quasiment le cœur de passer à Bad 4 puis de voir toutes les idées farfelues que je me demandais comment que ça sortait de quelque part. Comment quelqu'un pouvait penser qu'il était un génie d'avoir implémenté ça. Parce que j'étais comme. Il y a tellement de défis incroyables puis intéressants t'sais, par rapport à l'AI dans un sens. Que nous, en ce moment, on se bat pas pour démocratiser, mais pour dire, tu sais, juste de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'un AI a fait comme raisonnement, qui est probablement un des plus gros, des vrais défis d'AI intéressants, mais j'ai pas rien vu par rapport à ça. Tu sais, les vrais défis de l'AI, c'est pas ça qu'on entend parler, c'est pas ça qui flash dans le marketing ou qui flash dans ce qu'on va voir dans les conférences. Puis c'est ça qui fait que c'est comme... On en devient blasé à un certain point, j'ai l'impression. Là, c'est comme. C'est quoi la prochaine chose?
Hein? Ben, ce qui est un peu triste, c'est que, c'est genre, toi puis moi, on regarde ces affaires-là, on est un peu même outré à certains égards. Le problème, c'est que les acheteurs, ça en rendent pas compte. Les gestionnaires, ça en rendent pas compte. Et ils achètent ces idées-là. Puis là, là, moi, c'est là où je comprends plus. C'est que pourtant. T'sais, oui, parce que ces personnes-là sont supposées être des gens brillants, qui ont eu beaucoup d'expérience, puis qui vont être capables de guider un fournisseur qui va faire des conneries ou peu importe, les amener ailleurs. Puis alors que ça, on n'a rien de ça qui est en marche. Puis ils se font bourrer par des fournisseurs. On a eu des cas dans la dernière année où il y a eu des. Du code malicieux volontairement inséré, il y a eu des virus, il y a eu à peu près tout et n'importe quoi. T'sais, je ne veux pas blâmer un pays ou quelque chose parce que tous les pays sont relativement. Tous les pays riches sont responsables. Fait que autant Russie, Chine, Iran, mais on va dire États-Unis, Canada, France sont aussi coupables de développer des logiciels de cette nature-là. Donc. On est comme dans un dead end, puis c'est de comment on va définir, en ce cas, à mes yeux, le privacy, protection de la vie privée, tout ça, parce que j'avais lancé un boutage, j'ai dit, qu'à ça, on va faire une fenêtre de transparent dans la vie de la douche. Et l'arrêter, c'est tu peux pas faire ça. Parce qu'il y a peut-être une madame tout nue dans la dite douche. Et la madame tout nue, elle va être outrée s'il fallait qu'on puisse voir. Dans ça, là.
Ben, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche.
Ah, là, je suis complètement déconcentré.
Tu me bouges bien, là.
Là, je suis complètement déconcentré. On va terminer là. On a quand même abordé autant le sujet du Black Hat, puis de revenir un peu sur ce que c'est. On va reparler du DEF CON parce que c'est demain que ça commence officiellement. Aujourd'hui, c'est juste la journée des débutants. Fait que il n'y avait rien de pertinent autre que c'était plein. Et on a fait un petit crush sur les AI parce que on a quelques croûtes à manger encore avec les AI pour avoir quelque chose de pertinent.
Effectivement.
Merci énormément. C'est un plaisir d'avoir enregistré à Las Vegas. C'est très drôle d'ailleurs de profiter de ce moment-là pour faire ce genre de choses-là. On est au Link, une place que t'as choisi qui est franchement très chouette. Pour faire ce genre de choses-là, parce qu'on s'est fait littéralement jeter dehors du restaurant dans lequel on était. Là. Clairement, genre 1h du matin à Las Vegas, c'est trop tard. Bye tout le monde. Ciao. Fait que c'est très drôle. Merci.
Ça fait plaisir. À bientôt.